explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainées, tu connais ?
384 000 km.
Mais croyez-moi, je vais plus regarder les paysages par le hublot.
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est l'histoire d'une baroudeuse qui aimait voyager seule et qui a fini par faire le tour de l'Inde, accompagnée par 11 nonnes bouddhistes, des femmes qui, pour la plupart, n'avaient jamais quitté leur vallée himalayenne. C'est après avoir traversé l'Asie en tous sens pendant 22 mois, à pied, en vélo, à dos d'âne ou de chameau, que Caroline Riegel a fait la connaissance de ces nonnes dans une vallée perdue au nord de l'Inde. Une rencontre qui, de fil en aiguille, l'a emmenée dans une drôle d'aventure, une aventure qu'elle va nous raconter. Caroline Riegel passe par notre bivouac aujourd'hui.
Que c'est beau. Si beau que ça n'a pas l'air vrai.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Caroline Riegel.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure en construction en hydraulique, mais vous êtes surtout une grande voyageuse. Vous avez notamment effectué un long voyage de 22 mois en Asie que vous racontez dans un ouvrage en deux tomes, Soif d'Orient et Méandres d'Asie aux éditions Phébus. Lors de ce voyage, vous êtes passé par le Zanskar, une région qui se situe au nord de l'Inde. C'est là que vous avez rencontré les nonnes bouddhistes avec lesquelles vous avez ensuite effectué ce périple de 4 mois à travers l'Inde, un périple que vous allez nous raconter. Dans cette émission, nous retrouverons notre exploratrice des archives de l'INA, Flora Bernard. Elle nous emmènera au Népal dans les pas de l'exploratrice Ella Maillard, dont le parcours présente, nous a-t-il semblé, quelques similitudes avec le vôtre, Caroline Riegel. Et puis, en fin d'émission, pour notre séquence L'Aventure en direct, nous tenterons de joindre Mathias Alléon, un aventurier maison. Mathias est technicien à France Inter, habituellement, et il est en régie de l'autre côté de la vitre. Et puis là, il a pris une année sabbatique pour effectuer un long périple à vélo avec femmes et enfants à travers l'Europe et puis le monde entier. Il se trouve actuellement en Suède. Il nous dira comment se passe cette aventure loin de la maison de la radio. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet, préparée par Sylvain Guilbeault avec l'aide de Claire Barberis-Giletti.
Position.
Vallée du Zanskar, au pied de l'Himalaya, extrême nord de l'Inde.
Ça y est, nous y sommes, au Zanskar, cette petite vallée isolée au nord de l'Inde, un endroit que vous avez visité, Caroline Riegel, et c'est certainement dans cet endroit que vous avez fait l'une des plus belles rencontres que vous ayez pu faire lors de vos voyages.
Oui, c'est sûr. Une rencontre qui a eu de longues conséquences.
Oui, parce que cette rencontre ne date pas d'hier. Hein. C'était déjà il y a une dizaine d'années que vous avez rencontré ces nonnes que l'on entend prier, nonnes bouddhistes que l'on entend prier actuellement.
Exactement, oui, ça fait 10 ans, il y a 10 ans.
Alors nous allons raconter dans cette émission comment vous vous êtes liée d'amitié avec ces femmes et jusqu'où cette amitié vous a amené. Mais avant, petit retour en arrière, comment l'ingénieur en construction hydraulique que vous êtes est devenue cette grande voyageuse? Qu'est-ce qui vous a conduit à effectuer cet immense voyage de 22 mois à travers toute l'Asie?
Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je me suis posé longtemps beaucoup de questions puisque j'ai préparé ce voyage pendant 3 ans. De différentes formes, beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres. Je fais un stage de photographie noir et blanc. J'ai passé une année en forêt vierge au Gabon sur un chantier de barrage à l'époque, sans téléphone, sans internet, sans rien. Je suis rentrée du Gabon jusqu'en France par les transports en commun. Et pendant ces 3 années-là, j'avais pour objectif ce voyage que je mûrissais, que je construisais.
Il y avait quand même cette idée, vous qui êtes ingénieur en construction hydraulique, de l'eau. C'est-à-dire que vous aviez des bases de données, des chiffres où on vous parle de l'hygrométrie du monde entier, de l'endroit où il pleut, des cycles de l'eau. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, mais plutôt que des chiffres, j'ai envie d'aller suivre le trajet de l'eau sur place.
Ben mon boulot me permettait quand même d'aller dans des endroits, puisque j'ai été notamment par exemple, dans le sud de la France sur une construction de barrage ou en pleine forêt vierge au Gabon. Mais je pense que ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas en termes d'immersion, de ce que je pouvais vouloir vivre, de la façon dont je voulais pouvoir m'adapter auprès de populations différentes. Ça n'allait pas forcément au plus profond de mes rêves. Et à un moment, je crois que j'ai tout simplement construit mes rêves et je les ai vraiment, j'ai pris le temps de bien les mettre tous ensemble, ouais. de les monter. Et l'eau a été vraiment le fil directeur dans le voyage, a été aussi le lien entre mon métier et le voyage, entre les différents lieux dans lesquels j'ai souhaité m'immerger.
Et avant d'aller explorer ces lieux physiquement, vous vous êtes aussi beaucoup documenté. Je crois que vous vous êtes nourri d'énormément d'écrits d'explorateurs, vos aînés, explorateurs et exploratrices, qui étaient passés par l'Asie. Avant vous.
J'ai lu beaucoup de livres qui étaient des livres de géographie, de voyage, des livres plus techniques aussi, tout ce qui pouvait toucher à l'eau par rapport, dans ces régions, dans les régions où je voulais m'immerger, c'était le lac Baïkal à la fin de l'hiver, c'était le désert de Gobi en Mongolie, c'était la chaîne des Kunlun dans l'ouest de la Chine, l'hiver himalayen, le Gange sacré et la mousson au Bangladesh.
Alors pour vous inspirer notamment, vous lisez Alexandra David-Niel, qui est effectivement une exploratrice qui a marqué son époque, spécialiste du Tibet, un caractère très trempé. Elle a vécu fin du 18e, début du 19e. Je vous propose d'entendre la voix d'Alexandra David-Niel.
Et vous avez réellement failli périr?
Tiens, cela peut arriver à tous les explorateurs. Cela n'a rien d'extraordinaire.
Mais les gens de votre caravane étaient-ils nombreux?
Quelle caravane! J'ai toujours eu horreur de voyager en groupe. Mais cette fois, nous étions à pied et seuls.
Les provisions, le matériel de campement.
Les provisions? Mais nous en portions un peu sur notre dos. Matériel de campement? Mais il n'y en avait pas. Nous nous abritions pour dormir au pied d'un arbre, sous un roc, selon ce que nous trouvions sur notre route. Je m'étais mise en tête d'aller voir où la rivière qui traverse le pays de Pau prend sa source. Oh, je ne suis pas géographe. C'était une simple fantaisie. Pour arriver dans cette région, il nous fallait traverser la Dioula. Cette région du Tibet n'avait pas encore été explorée. J'étais le premier voyageur blanc qui passait par là. L'altitude du col peut avoir 5000 mètres, 4800, quelque chose comme ça.
Alexandra David-Niel, interviewée en 1954... On sent toute cette énergie et cette force de caractère trempée dans la voix. Vous aviez modestement envie de mettre vos pas un peu dans les siens, dans les pas de cette exploratrice?
Oui, sans doute. Après, je crois que j'ai vraiment construit mon propre voyage. Je dirais qu'au final, ceux qui m'ont le plus inspiré sont justement Ella Maillard et plus vivant Bernard Olivier, de par leur voyage certes, mais aussi leur personne, leur façon de vivre. Je crois que c'est vraiment eux qui m'ont au final. Leur écriture aussi.
Alors Ella Maillard, on aura l'occasion d'y revenir. Hein, je l'ai dit avec Flora Bernard qui elle aussi a recueilli des extraits d'interviews d'Ella Maillard. On y viendra un peu plus tard dans cette émission. Dans le son qu'on vient d'entendre avec Alexandra David-Niel, elle dit « Évidemment, je voyageais seule, c'est comme ça qu'on voyage le mieux. » Vous partagez cet avis ?
Je pense que ce sont des voyages différents et que tout voyage apporte son lot de bonheur et de richesse. Par contre, pour s'immerger vraiment dans un lieu et auprès d'autres personnes, surtout d'autres cultures, effectivement, être seul, c'est quand même un avantage parce qu'on va avoir besoin littéralement des autres. On est à 100% pour les autres. On a besoin de ces rencontres. Je dirais pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je dirais que c'est différent. Mais pour ce que moi, je pouvais vouloir vivre, c'était forcément nécessaire.
Avec la part de risque que ça comporte, est-ce que vous vous êtes sentie parfois, au cours de ces 22 mois, en danger, en voyageant seule?
Alors, en vrai danger, dans le sens où vraiment là, je sens et je me dis, là, je suis mal, ça m'est arrivé une fois. Mais sinon, non, peut-être.
À quelle occasion?
Mais c'était au Bangladesh. C'est vrai que quand j'étais à vélo, il y avait souvent des hommes à vélo qui venaient m'aborder. Et là, c'était un homme sur sa moto. Et on le sent dans le regard tout de suite, en fait. le sent. C'est pas une proposition un petit peu plus ou moins décente, mais quand même rigolote et pas très dangereuse. C'était autre chose. On sentait qu'il y avait que c'était quelqu'un qui allait s'accrocher à ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait n'était pas forcément très catholique, c'est le cas de le dire. Ouais. Et là, j'ai suivi les. Je me suis souvenue d'ailleurs de Bernard Olivier qui parlait de toujours faire quand il y a un problème, même si on a l'impression d'être dans un endroit tout seul où il y a personne, de faire du bruit, de rameuter du monde. Ça finit toujours par arriver. C'est ce qui s'est passé. Effectivement.
Ouais. Alors, il y a eu évidemment beaucoup plus de belles rencontres, notamment dans le désert de Gobi. Vous avez passé une dizaine de jours avec des nomades, racontez.
Oui, mais là, j'avais posé mes chevaux.
Vous étiez à cheval.
Là,
parce qu'en plus,
à cheval, ouais.
Pendant ces 22 mois, vous changez sans arrêt de monture, parfois à pied, parfois à dos d'âne, parfois à dos de chameau, parfois à cheval.
Ben, en fait, je me suis effectivement adaptée jusqu'aux montures à l'environnement local. Et pour entrer dans les aires de Gobi, le plus logique, effectivement, étaient les chevaux. Pour traverser le Gobi, effectivement, c'était un chameau, que j'ai appelé Merlot d'ailleurs.
Ah oui.
Mais à ce moment-là, j'avais encore mes chevaux et c'est bien avec eux que j'ai eu le plus de difficultés.
Et alors, avec ces nomades, comment ça s'est passé dans le désert de Gobi ?
Mais en fait, j'ai aidé une association française, deux Français qui faisaient de la plomberie dans une école. Donc le jour, j'allais les aider, j'allais faire avec eux, je m'initiais à la plomberie, ce qui était tout à fait rigolo. Une expérience vraiment chouette. Et le soir ou avant, après, c'est vrai que j'ai passé du temps avec ces nomades. La vie est belle avec les nomades. En Mongolie, ce sont des gens assez libres, pas très compliqués. Ce sont des gens joyeux. C'est très facile de passer son temps avec les nomades en Mongolie.
Alors ensuite, au cours de ce voyage, vous passez par cette région, le fameux Zanskar, qui n'est pas une région très connue, qui se trouve coincée entre une chaîne de montagnes, l'Himalaya, et puis une chaîne de montagnes qui porte ce nom, le Zanskar, une petite vallée. Et là, vous faites pour le coup une rencontre vraiment qui vous marque plus que les autres.
Il faut dire que dans ce voyage de presque 2 ans, j'ai passé 6 mois aux Zanskar. Et 6 mois, c'était vraiment tout l'hiver. Et là, j'ai été sédentaire. Alors que tout le reste du temps, j'étais quand même plutôt nomade. Mmh. Donc si effectivement, je pouvais rester jusqu'à une dizaine de jours quelque part, c'était quand même guère plus que ça. Alors qu'aux Zanskar, je me suis posée, j'étais contrainte de me poser. Et surtout, j'y ai vécu le plus ancré de mes rêves. Ouais. L'hiver himalayen, dans un endroit encore complètement, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, complètement fermé au monde, complètement isolé.
Et c'est ce que vous allez nous raconter, cette histoire dans le Zanskar et la rencontre avec ces nonnes bouddhistes que vous avez faites. Vous allez nous raconter ça dans un instant, dans le temps d'un bivouac jusqu'à 18h. Et pour nous laisser vos messages, il y a la page Facebook de l'émission.
Je ne fais rien. Yakuzan était seul en zazen dans le dojo. Le maître entra et lui demanda : « Que fais-tu ? » Le disciple répondit : « Je ne fais rien. » Le maître remarqua : « Tu fais zazen. » Le disciple lui dit : « Si j'avais répondu zazen, cela aurait voulu dire que je faisais zazen. » Le maître demanda alors : « Tu fais quelque chose, pourquoi est-ce ne rien faire ? » Le disciple lui dit : « Même 1000 Bouddhas ne peuvent comprendre. »
Le temps d'un bivouac, les explorateurs s'aventurent. Sur France Inter, Daniel Fievé.
Et pour nous laisser un message, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr et je vous le disais, la page Facebook qui est en train de s'envoler littéralement depuis quelques mois. Toute l'équipe lit vos messages avec un immense plaisir. C'était Beach House qui chantait Myth sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Ensevelie de neige, la haute vallée de la Louknac, aux Anskars, est coupée du monde pour de longs mois d'hiver. Insignifiante dans la vallée immaculée, les quatre maisons de Surlé sont perchées au-dessus de la rivière gelée. Il est à peine 14 heures. Les ombres bleues rampent sur le chemin glacé pour s'emparer du hameau. Le ciel est immense et transparent. Le silence hurle, le froid lacère. Les bêtes transies rentrent dans les étables.
Un extrait du livre « Le fleuve gelé » de Olivier Feulmy, un écrivain et photographe que l'on entendait à cet extrait dans l'émission « Des paysages » sur France Inter en 2002. Caroline Riegel, ce sont des écrits qui n'y sont pas pour rien dans votre envie d'aller voir de plus près le Zanskar.
Non, en effet. C'est d'avoir vu les magnifiques photos d'Olivier Feulmy. Je crois que le Zanskar est venu comme ça s'inscrire quelque part dans la tête et y rester jusqu'à ce que j'y arrive.
Ouais. C'est que cette vallée, c'est minuscule, hein. On l'a dit, c'est enclavé, encerclé par les montagnes de l'Himalaya et puis une autre chaîne de montagnes du Zanskar. Mais quelle surface fait le Zanskar, cette petite vallée?
Je ne saurais pas vraiment dire en surface, mais le cœur du Zanskar est une sorte de triangle assez ouvert. Au sud, on a vraiment la grande barrière himalayenne qui ferme complètement. De d'est en ouest. Et au cœur du Zanskar, on a 5 km sur 5 km à peu près, comme ça, en triangle. Et puis après, il y a vraiment trois bras qui s'étendent, un vers l'est, un vers l'ouest, chacun vers des cols, et un vers le nord, qui sont les gorges, justement, du fleuve gelé, le Tchadar.
Alors, on peut découvrir quelques images, parce que à force d'y retourner, vous avez fini par filmer, et vous avez ramené de très belles images, rapporté de très belles images. On en a mis quelques-unes sur la page Facebook du temps d'un bivouac pour qu'on puisse les voir. C'est un peu une sorte de teaser pour ce que vous allez faire. Vous allez faire un film plus long sur votre aventure. Décrivez-les-nous, ces images que tout le monde n'a pas vues.
La période que j'aime, moi, c'est vrai, le plus en termes d'images, de temps aussi, de lumière, c'est vraiment l'hiver. Quand on se réveille et qu'on a cette immense barrière himalayenne qui est complètement immaculée de neige, avec un ciel qui est très bas, le soleil qui rentre par les petites, comme il est assez bas, il rentre par les petites fenêtres. On a des rayons de soleil à l'intérieur dans des petites pièces, les petites pièces qui sont habitées l'hiver, puisqu'il fait quand même très froid. C'est vraiment un moment particulier où on se détache du temps, où prier devient quelque chose de naturel, qui remplit beaucoup de journées. Mmh. Après, il y a ce fleuve gelé aussi, qui est vraiment un chemin de paysage absolument incroyable.
Avec cette glace bleutée, ouais. Cette impression de bonbon à la menthe, un peu.
Au matin, au matin, c'est vraiment, on est dans ces lueurs bleutées, très froides. Quand le soleil est là, par contre, et plus on se rapproche vers le Lavette, d'ailleurs, les roches sont parfois comme ça, rouges, brunes, ocres, et donc ça devient beaucoup plus chaud. Ce sont des immenses barrières. Et on marche tout petit sur les bords de glace, parfois quelques centimètres. Parfois, il faut escalader parce qu'il n'y a pas de glace ou l'eau passe par-dessus la glace. Et on dort dans les grottes et ouais. c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
Et c'est dans ce décor assez extraordinaire que vous faites la rencontre de 12 nonnes. Alors, dans quel... on appelle nonnerie, hein, ce n'est pas un monastère pour les nonnes, c'est la nonnerie. À quoi ressemble la nonnerie? C'est très spartiate, hein?
Oui. Alors la nonnerie de Tongri, puisqu'il y a une dizaine de nonneries aux Anskars, il y a 10 nonneries même, je crois, qui sont toutes des petites nonneries de, on va dire, une dizaine à une vingtaine de nonnes. Et l'une d'elles est celle de Tongri, qui est pas très loin du cœur du Zanskar et du chef-lieu du Zanskar, de Padoum, à 15 km, en allant vers l'ouest. Et là, il y a vraiment un petit village comme ça, au pied d'une au pied d'une pente, d'une grosse montagne. Et juste au-dessus du village, il y a vraiment cette petite nonnerie où il y a quelques petites cellules, quelques petites maisons comme ça, orientées en plein sud, face à la grande barrière himalayenne. Les nonneries et les monastères sont toujours dans des lieux qui ont une certaine hauteur, une vue assez incroyable. Je ne sais pas si c'est parce que ça les inspirait beaucoup plus, sans doute.
Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu au premier abord ? C'est ce lieu, apparemment effectivement particulièrement spectaculaire, ou c'est la personnalité de ces femmes, de ces 12 nonnes que vous rencontrez à cet endroit ?
Je crois que c'est un tout. Quand on arrive, c'est d'abord les lieux qu'on voit. Ce sont des lumières. Puis ce sont des visages. Ce sont des odeurs. Et puis ce sont des rires.
Ouais.
Et ce qui m'a sans doute le plus marqué dans cette vallée, dans ce que j'ai vécu il y a 10 ans, dans cet hiver encore des anciens temps, c'était vraiment le rire.
Oui, c'est vrai qu'elles ont la pêche, hein, ces nonnes, elles sont pleines d'humour.
Moi, qu'on puisse dire.
Et le rire a l'air d'avoir effectivement une place importante pour elles.
Il faut rire un peu entre les prières. Rire, c'est important, a dit le Dalai Lama. Sans rire, on ne peut pas être heureux. Rire donne du mérite, n'est-ce pas ?
Alors, vous vous êtes fait de beaux fous rires avec ces nonnes,
oui,
Caroline
Riegel. On rit du matin au soir. Hein. C'est un rire vraiment... C'est presque une maladie absolument généreuse, facile, naturelle. Et c'est extraordinaire.
Hein. Ouais. Et vous leur avez appris certaines de vos... Elles vous ont appris leurs chansons. Vous leur avez appris, par exemple, à chanter du Jacques Brel, « Ne me quitte pas ».
Ah, mais ça, c'est quand même incroyable. S'il y a 10 ans, on était là, moi, j'apprenais la langue, je découvre, je suis vraiment là, assise avec elles. C'est un temps de prière. Et entre les prières, puisqu'on fait des pauses, hein, comme on ferait des pauses, voilà, dans une émission radio.
Oui.
Et puis dans ces pauses, on discute, on rigole. Et puis moi, elle me demandait de chanter. Je leur avais appris « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Et quand j'étais capable de leur traduire, ça les faisait beaucoup rire. Alors
je disais,
non, cette chanson est triste.
Oui.
Mais non, ça les faisait rire. Voilà, elles avaient bien compris la signification. Et du coup, elles avaient bien compris ce que voulait dire « Ne me quitte pas ». Et donc, entre les prières, au moment de la pause, elles étaient là quand quelqu'un sortait ou « Ne me quitte pas ».
Ah, oui.
C'était juste absolument extraordinaire.
Peut-être l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, qu'elles ont trouvé un peu exagéré, je ne sais pas.
Ça, voilà, bon, oui. C'est à peu près comme moi et leur prière, je ne comprends pas toujours tout. Hein.
Alors, comment est venue cette idée ? On sent ça accrocher, vous êtes régulièrement retourné les voir, c'est-à-dire cette première rencontre a lieu à l'hiver 2004-2005,
ouais.
Et puis vous leur promettez de revenir quelques années plus tard, vous retournez les voir en 2007, et puis naît petit à petit cette idée incroyable de partir faire le tour de l'Inde avec ces 12 nonnes, vous et ces 12 nonnes. Comment on essaie ? Alors pour certaines qui n'avaient jamais voyagé, certaines n'étaient jamais sorties, n'avaient jamais pris l'avion, n'étaient même jamais sorties de cette petite vallée. Et vous vous dites, on va faire un tour de 4 mois en Inde.
C'est un peu un rêve qu'on a eu. Je dirais, le voyage m'a amené à elles. Moi, je pouvais leur parler du monde. Elles me parlaient de joie. Et je me souviens, c'était le deuxième hiver que j'ai passé là-bas. Et qui était le fruit d'une première promesse, la seule promesse que j'ai faite pendant mon voyage de 2 ans, qui était aux nonnes en pleurs. Et je leur ai dit, je reviendrai dans les 2 ans qui suivent mon retour. Et là, on était en train de blanchir un chorten.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un stupa, c'est les monuments là, qu'on voit toujours au Tibet, qu'il faut contourner par la gauche. Une sorte de petite pyramide comme ça. Et on riait ensemble, on dansait, on chantait. Et puis on s'est dit, ce serait tellement bien de voyager ensemble, on devait parler du monde, je ne sais plus vraiment de quoi d'ailleurs, hein. Elles le savent mieux que moi, je crois bien. Et puis bien sûr, elles n'y ont pas cru, et moi dans ma tête, je me suis dit, ça serait quand même extraordinaire. Je veux dire, elles m'ont tant donné finalement, et moi je ne peux pas leur apprendre le bouddhisme, enfin je ne peux pas, je peux les aider certes, mais... Ça, c'est peut-être ce que j'ai encore de mieux à partager, cette possibilité de découvrir le monde, sa diversité.
Donc, ce qui était un peu un projet évoqué comme par amusement, un petit peu comme un délire auquel tout le monde se plaisait, que tout le monde se plaisait à évoquer, est devenu de plus en plus concret, précis.
Exactement.
Et
jusqu'au jour où moi je leur ai dit, maintenant vous fassiez les cartes d'identité, je crois que je vais pouvoir vous emmener, j'ai besoin d'un an, un an et demi là encore. Et elles y ont cru. Elles se sont préparées de leur côté. Moi, de mon côté, bah, il fallait que je me prépare. J'ai mis de l'argent de côté puisque j'ai financé tout ce voyage, cette promesse. Et puis, on est parti.
En 2012, départ voilà. A bien eu lieu. Nous voilà donc le jour J aux Anscars. Évidemment, l'événement. Dans quel état étaient à la fois les villageois qui restaient au village et qui voyaient pour la première fois partir presque toutes les nonnes, la plus âgée est restée sur place. Les 11 nonnes sont parties, elles sont âgées entre 20 et 80 ans, ces nonnes.
Ouais, je crois. 27 et 77 à l'époque, ouais. Au moment du voyage.
Alors, il devait y avoir de l'appréhension, de la joie, de l'excitation. Dans quel état était tout le monde au moment du grand départ ?
Mais il y avait de tout ça. Pour les nonnes, bien sûr, sachant qu'on allait quand même faire le fleuve gelé, il fallait quitter les Anscars par le fleuve gelé, et 5 ne l'avaient jamais fait, donc c'est vrai que c'était un mélange de tout ça. Par contre, les villageois, je pense, pour eux, c'était, et je m'en suis rendu compte vraiment au moment du départ, et surtout au retour, une immense fierté, une grande confiance, et malgré tout aussi, le cœur vraiment serré. Les mères pleuraient, littéralement, tout le monde pleurait, ce qui fait que dans les voitures, puisqu'on a pris les voitures pour aller au début du fleuve gelé, ben, les nonnes ne disaient plus un mot. Elles étaient tellement émues par ce départ, ouais. Tellement... C'était à la fois dur de partir, à la fois elles étaient touchées de voir cette fête villageoise et puis de voir les pleurs de toutes les femmes.
Est-ce qu'il vous est arrivé de douter, de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je déracine ces 11 nonnes qui ne sont jamais parties. Elles, ça y est, d'habitude elles sont joyeuses, elles parlent de temps, elles ne parlent plus. Est-ce que ça va bien se passer ces 4 mois ?
En fait, je pense que là où j'ai vraiment commencé à réaliser ce que j'étais en train de faire et la responsabilité que j'allais porter sur les épaules, c'est quand j'ai fait le fleuve gelé pour aller les rejoindre, justement, pour aller les chercher. Et j'avais été porteur sur ce fleuve gelé il y a 10 ans. J'avais une force, je veux dire, quand j'ai fait ce voyage il y a 10 ans, j'étais vraiment d'une force. Je veux dire, c'est vrai que j'avais bossé comme porteur pendant un mois sur ce fleuve gelé. Et là, après une année au Sud-Soudan, une année au Pakistan, des années pas faciles, après 4 mois de préparatifs, mais alors j'avais maigri, j'étais pas du tout dans mon, j'étais fatiguée, même avant de partir finalement, puisque j'avais eu que 4 mois pour trouver une caméra, comprendre comment ça fonctionnait.
Parce que vous vouliez en plus filmer tout ce voyage.
Et ça a été vraiment le plus difficile en fait, par-dessus tout le reste quoi. Mais là je me suis vraiment dit, j'avais cette caméra, j'étais sur le fleuve gelé, il fallait que je trouve quelqu'un. Tout d'un coup, je pouvais pas porter tout ça. Là je me suis dit, mon Dieu.
Et ça s'est très bien passé, c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant, votre voyage en Inde avec ces 11 nonnes bouddhistes.
En attendant la fin de la fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se terminera bien. Et pourtant, à des kilomètres à la ronde, dans le trou noir, y'a rien à voir, ça va, ça vient. Et c'est peut-être ta dernière chance, tu t'y fais à force d'y penser. Plus souvent, quand ton esprit vagabonde, tu te répètes peut-être à défaut d'arguments. Finalement, l'espace d'une fraction de seconde, tu te dis que l'infini c'est dans trop longtemps. Et c'est peut-être ta dernière chance, tu t'y fais à force d'y penser. Et c'est sûrement perdu d'avance, comme quoi. Thank you.
France Inter, le monde dans ses moindres recoins. Daniel Fievé.
C'était Junior, la fin du monde dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Et c'est loin d'être la fin du monde. Pour nous, c'est le début du voyage. Nous sommes avec Caroline Riegel et nous partions avec ces 11 nonnes bouddhistes que vous aviez rencontrées dans cette petite vallée du Zanskar. Et vous décidez de faire un tour de l'Inde de 4 mois avec elles. Alors, dès le début, il faut prendre l'avion. Pour la plupart, c'était une première. Hein.
Oui, d'abord le fleuve gelé déjà.
Oui, oui.
Et ensuite,
qui glisse énormément, hein, le fleuve gelé, ça glisse. En plus, vous êtes vraiment lourdement chargé avec des sacs à dos qui vous dépassent.
Toutes nos affaires, oui. Ouais, on a apporté toutes nos affaires, en effet. Et
l'avion, ça se passe bien ?
Oui, l'avion, ça se passe très bien. On a eu un vol magnifique où on a quand même vu le Nanga Parbat, le K2, le Noon, le Koon. Donc, ça allait.
Position.
Benares, Inde. État d'Uttar Pradesh, rive gauche du Gange.
Et quand on arrive dans certaines villes, comme Bénarès, est-ce qu'elles sont pas un petit peu perdues, nos nonnes bouddhistes, qui sont habituées au calme de leur vallée himalayenne ?
Le premier choc a vraiment été à Delhi. Quand ouais. on sort de l'aéroport, et puis bah, on est quand même un groupe de 13 personnes,
ouais.
Donc il faut faire 4 taxis, donc il faut se séparer, et puis il faut traverser tout Delhi pendant une heure.
Mmh.
Et là, bah, pendant une heure, elles se retrouvent éventuellement sans moi... à pas parler hindi, à pas savoir où elles sont, dans un délire, un capharnaüm, un chaos. Et là, je crois qu'elles ont quand même eu peur. Et surtout, elles se sont dit, mon Dieu, si on perd Caroline. Et moi, je me suis dit exactement la même chose. Ouais. Mon Dieu, si j'en perds une.
Ouais. C'est étonnant parce que je vous ai présenté en début d'émission comme une voyageuse solitaire, habituée à s'occuper d'elle et uniquement d'elle. Et vous nous avez dit, il n'y a que quand je voyage seule que je fais les plus belles rencontres parce qu'on est obligé d'aller vers l'autre. Et là, vous vous retrouvez un petit peu comme... comme super guide de ce groupe de nonnes, avec les responsabilités qui vont avec.
Oui, mais non, c'est sûr, c'était pas rien. Mais en même temps, je pense qu'on a eu une telle confiance, une telle intimité, une telle amitié. Sinon, ça n'aurait pas été possible, parce que 4 mois, c'est quand même pas rien. Faire guide de 12 personnes,
ouais.
D'être guide, traducteur... logistique. Puis l'Inde, c'est fatigant. Hein.
Ouais.
Je me suis dit, parfois, l'an prochain, on va en Mongolie.
Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que sur les quelques images, vous avez eu la gentillesse de nous envoyer quelques images, parce que le documentaire n'est pas encore monté, mais vous nous avez envoyé quelques images que vous avez filmées. Et on voit, elles chahutent en fait, elles s'amusent. À un moment, elles prennent, je ne sais pas, un bus ou quel moyen de transport, elles sont bousculées et après, elles racontent l'histoire entre elles, mais elles se bousculent en se marrant. Elles sont très énergiques, elles sont... elles déconnent.
Elles ont vraiment une joie de vivre incroyable, une liberté finalement. Elles n'ont pas de ressources, mais n'ont pas de compte à rendre. Chacun a son rythme, personne n'a à se justifier. Les règles existent, mais dans le fond, elles sont assez souples.
Mmh.
Et quand même, 4 mois de voyage, dans des conditions pas toujours faciles, hein, des nuits de bus, enfin tout ce qu'on peut imaginer, de train ou autre transport, de bateau, avec tout le mal de mer qu'on peut imaginer.
Mmh.
4 mois et pas une plainte et pas une colère.
Ouais. Avec des voyages en bus où elles sont toutes malades, à vomir par la fenêtre.
Ça, c'était le premier. Là, j'ai eu peur. Hein.
Ouais.
Je me suis dit que ça allait être difficile. Mais finalement, ça s'est calmé par la suite.
Vous êtes passé par le Rajasthan, les rives sacrées du Gange, aussi sacrées que polluées. Les mégapoles, on en parlait, les mégapoles modernes, frénétiques, où il a fallu qu'elles s'habituent. L'océan Indien. Alors, à chaque fois, pour elles, ce sont certaines découvertes, notamment l'océan, avec cette surprise en demandant, mais il y a encore de l'eau derrière l'horizon, en voyant toute cette étendue.
Oui. Et puis, elle ne savait pas que l'eau était salée, en fait. Donc ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour elle, puisqu'elle savait qu'il y avait énormément d'eau, les prières le disent, mais que l'eau était salée, non.
Ouais.
Et on a pris le cargo, en fait, à Chennai, pendant 3 jours, 3 nuits, un immense bateau, plus grand qu'un immeuble. Donc ça, c'était aussi ce qui les rassurait, d'ailleurs. Hein. C'est plus rassurant qu'un petit bateau, quand même.
Ouais.
Et pour aller aux îles Andaman, Nicobar, où on est vraiment là aux antipodes du Zanskar, tout en étant dans un lieu qui est assez similaire aux Zanskar. En termes d'isolement, de tranquillité, de nature, de vie un petit peu reculée.
Avec des contrastes parfois saisissants, où là c'est l'opposé de ce qu'elles ont toujours vécu. Encadrées qu'elles étaient de ces montagnes, tout d'un coup elles se retrouvent avec des horizons dégagés à 360 degrés quand elles arrivent
au Gujarat,
notamment au Gujarat.
Dans le Little Run of Kutch. Ouais.
Elles voient des couchers de soleil comme elles n'ont jamais vu.
360 degrés de plat complet, c'était assez extraordinaire.
Ouais. Et puis parfois... Parfois, certaines gênes, notamment par rapport à l'argent. C'est ce que vous avez pu noter.
Oui, alors au début, ce n'était pas facile pour elles parce que bah, d'abord, elles ont une vie quand même très, très, très chiche. Hein, je veux dire, elles, là-bas, aux Zanskar, on ne dépense pas grand-chose. Elles travaillaient dans les familles pour avoir ce qu'il leur fallait pour manger. Avaient un peu depuis une dizaine d'années, elles avaient de l'argent d'une nonne américaine qui soutient un peu toutes ces nonneries bouddhistes isolées dans l'Himalaya. Donc là, tout d'un coup, à 13 personnes ou 14 personnes, c'était quand même chaque jour une liasse de billets qui partait hein, pour tout, les transports, le logement, la nourriture. Et ça, au début, c'était pas évident pour elles parce qu'elles savaient que c'était mon argent et c'était... Voilà, c'était mon Dieu, mais comment vas-tu faire après? Mon Dieu, mais enfin... Ouais. Et je me souviens notamment à Medabas, je leur offre, tiens, des bonnes, des glaces. Ça avait l'air très bonne. Je dis, ah, vous allez goûter les glaces. Alors, chacune goûte son parfum. C'est délicieux. Oui. Puis alors, combien c'est? Parce qu'elles étaient toujours au courant de tout.
Ah oui.
Pour moi, c'était important qu'elles fassent vraiment littéralement partie de ce voyage. La logistique, qu'elles comprennent tout, à la fois les coûts, à la fois les réalités, le bien, le moins bien. Le dur, le plus facile. Et donc, elle me demande combien c'était. Et quand je leur ai dit, je ne sais plus, 100 roupies peut-être, elles me disent, oh, mon Dieu, on n'en mangera plus jamais. Parce que pour une boule de glace, c'était...
Il y a un décalage sur beaucoup de choses, notamment lorsque vous les emmenez au bord de la mer et qu'elles découvrent le travail des pêcheurs et le nombre de poissons qu'elles rapportent. L'une d'entre elles est assez effarée par cette quantité de poissons.
Ils apportent les poissons ici. Demain, ils seront morts et mangés. Nous prions pour chaque action de notre vie afin de réduire son impact négatif. Eux, à prendre autant de vie, n'ont aucun espoir d'améliorer leur karma.
L'une de ces nonnes inquiète pour le karma des pêcheurs en voyant le massacre de poissons auquel il se livre.
C'était dur à comprendre.
Oui. Mais c'est ça, souvent vous avez dû être, vous les connaissiez bien, mais déstabilisé par certaines de leurs réactions face à ce monde qu'elles ne connaissaient pas pour ne pas l'avoir encore visité.
Oui et non, mais en même temps on parle beaucoup. Donc c'est vrai que je discute des heures et des heures avec elle et on partage nos points de vue. On n'est pas toujours d'accord hein, d'ailleurs hein, et on essaie de comprendre, d'expliquer. Et puis après voilà, ça permet de faire évoluer ou non
alors,
les mentalités.
Au début, elles étaient un peu intimidées par ce grand voyage. Petit à petit, au fur et à mesure du voyage, elles se sont aguerries. Même à la fin, elles sont allées au Népal alors que vous ne pouviez pas les accompagner. Ouais. Donc elles ont fait une partie du voyage sans vous, hein, ces 11 nonnes. Mais puisque vous n'avez pas pu aller au Népal, et bien petite session de rattrapage. Flora Bernard nous y emmène en compagnie de Ella Maillard grâce aux archives qu'elle a dénichées à l'INA.
Quand Ella Maillard était enfant, en Suisse, au bord du lac Léman, elle se passionnait pour les livres d'aventure et les cartes de géographie. Alors, dès qu'elle a pu, elle est partie.
Ella Maillard, dans ce récent voyage au Népal, vous n'étiez pas une nouvelle venue, en tout cas en Asie.
Non, je dois dire que je m'y suis déjà rendue 7 fois. J'étais au Caucase, au Turkestan russe, au Turkestan chinois. J'étais 2 fois à travers la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. En 1945, j'étais aussi Kim et dans le sud du Tibet jusqu'à Faridzhang. Et j'ai passé toute la guerre dans le sud de l'Inde.
Nous sommes en 1952 et ça fait plus de 20 ans qu'Ella Maillard parcourt le monde par tous les moyens.
Oui, et généralement, c'était des voyages assez longs dans lesquels vous empruntiez à peu près tous les moyens de locomotion, et depuis le chameau jusqu'à l'essentiel qui est la marche à pied.
Oui, en effet. Et même le yak.
Et même le yak. Au Tibet. Eh bien, cette fois-ci, vous avez encore, je crois, employé un autre moyen de transport.
Eh bien oui, on trouve passablement de bicyclettes au Népal. J'ai réussi à en louer une et à me promener dans la vallée de Katmandou en bicyclette.
Oui, pour la vallée de Katmandou. Pour le reste, vous avez repris votre pas de montagnard.
Des alpages suisses aux cimes de l'Himalaya. Pour El Lamayar, il n'y a qu'un pas. Nous sommes en 1952 et ça fait seulement un an que le Népal est ouvert aux voyageurs étrangers. Et Ella en revient, justement.
Alors décrivez-nous le village népalais.
Eh bien, le grand charme là-bas, en tout cas dans la vallée où je me suis trouvée, parce que je n'ai vu qu'une vallée, il y en a peut-être 2000 ou 3000, ce sont les grandes boiseries sculptées qui forment les trois fenêtres qu'on trouve dans toutes les façades de ces maisons.
Les murs sont en pierre sèche, je crois.
En pierre sèche, qui donne de loin une très belle couleur bleue ou dorée.
Et la montagne, alors?
Alors, dans la montagne, la vie est un peu plus isolée. Dans les villages, on voit des maisons qui sont séparées les unes des autres, avec toujours l'air à battre le blé devant la maison.
Et comment sont ces maisons? Comment sont-elles construites?
Ces maisons sont charmantes. Elles rappelleraient un peu celles du Haut-Valais, parce qu'elles sont faites en pierre sèche.
Vous êtes valaisanne, je crois.
Oui, je suis domiciliée au Valais, dans le plus haut village de Suisse.
Oui, alors vous étiez tout à fait à votre aise, dans les plus hauts villages du Népal.
Oui, c'était mon idée. Je voulais faire un parallèle entre un village du Haut-Valais et un village du Népal.
Et bien sûr, pour El Lamayar, voyager, ce n'est pas seulement grimper. C'est aussi discuter, découvrir, raconter.
Oui, quelles sont les distractions de ces pays perdus?
Eh bien, ces gens-là vivent assez richement, j'ai eu l'impression. Nous avons assisté à un banquet funéraire où il y a eu la nourriture servie à tout le village gratuitement par le fils du défunt. Et le chef du village me disait qu'en plein été, pendant 21 jours, ils ont des banquets offerts par la communauté. Jour après jour, pendant 21 jours, au mois de juillet.
Alors chacun participe au banquet, comment?
Parfaitement, les gens riches donnent un peu plus. L'un donne du grain, l'autre de la farine, l'autre donnera la viande s'il a abattu une bête. Et il paraît que ça correspond à leurs vacances.
Une belle idée pour les prochaines vacances. Merci Ella.
Merci Flora Bernard. Il y a comme un léger air de famille entre vous, en tout cas nous trouvons, entre vous Caroline Riegel et Ella Mayar, non?
C'est flatteur.
Non mais c'est vrai, vous êtes un peu dans la même, vous avez fait les mêmes, vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes pays et un peu la même conception du voyage, non?
Sans doute.
Oui, ça vous gêne que je dise ça. Alors après 4 mois de voyage avec ces nonnes et leur retour du Népal, elles ont apprécié le Népal même si vous n'étiez pas avec elles?
Ouais. Mais plus encore le Bhoutan,
ouais.
Parce que le Bhoutan offre une façade absolument merveilleuse, sans trafic, sans pollution, tout ce qui fatigue en Inde n'est pas au Bhoutan en apparence. Et c'est des apparences qu'on voit quand on y va de jour. Et là, elles ont été absolument éblouies par le Bhoutan. Tout y est préservé, tout le monde est habillé de façon traditionnelle.
Et après donc ces 4 mois de voyage, eh bien, retour des nonnes avec vous au village dans la vallée du Zanskar. C'est à nouveau la fête. Il y avait les instruments pour vous accueillir, les chants, on les entend. Comment s'est passé le retour? On imagine que ça devait être là aussi émouvant, ces retrouvailles après 4 mois.
Oui, parce qu'on est revenu par un col à 5000. On a marché sous la neige et en fait les villageois sont pratiquement tous les hommes sont venus nous chercher jusqu'au fond, bien après la fin de la piste. On fait un grand convoi de je ne sais plus combien de voitures pour nous ramener au village où là les femmes nous attendaient avec du chang, du thé, à manger et elles avaient créé, inventé une chanson qui raconte toute cette aventure.
Mmh. C'est ce qu'on entend là, cette chanson?
C'est cette chanson-là.
Donc elles avaient créé la chanson pour raconter ces aventures. Effectivement, ça devait être très beau. Nous, on ne comprend pas, mais vous comprenez. Hein, vous avez appris leur langue, vous comprenez?
Oui, je parle. J'aurais pas pu faire tout ça si je ne parlais pas leur langue, c'est
évidemment
sûr.
Alors en quoi ce voyage, vous étiez déjà très amis avec ces 11 femmes, en quoi ce voyage a renforcé votre amitié?
Je crois qu'aujourd'hui, on est juste vraiment très très proches, au point que tout nous devient naturel quand on est ensemble. Alors l'histoire n'est pas terminée, puisque pendant le voyage, il y a une école qui a ouvert ses portes à la nonnerie. Et puis maintenant, je me suis retrouvée lancée dans le projet de construction d'une école.
Ouais.
Donc l'aventure continue. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir aussi que ce voyage, où quand même j'ai emmené ces femmes découvrir le monde, Elles sont rentrées en ayant à la nonnerie à prendre un virage vers l'avenir. Et ça, c'est quand même un timing qu'on n'aurait même pas pu, je pense, rêver ou imaginer.
Elles ont l'eau courante, ces femmes?
L'eau de la rivière, en fait.
Ouais. Je pose cette question parce que je rappelle que vous êtes, on l'a peut-être oublié, je l'ai dit en vous présentant au début, ingénieur en construction hydraulique. Est-ce que cette fonction, ce métier, ne peut pas, cette compétence, est-elle mise à profit pour peut-être améliorer leur sort?
Elle m'a déjà servi en fait pour un projet de canal effectivement là-bas. Il se trouve que c'est le gouvernement qui a pris en charge la création d'un canal à la nonnerie, donc pour l'instant c'est très bien. Et moi je vais m'occuper de la construction de l'école en fait.
Allez, l'heure est venue de prendre des nouvelles de Mathias Alléon, qui est technicien à France Inter, et il est parti faire un tour à vélo. Alors la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans les couloirs de France Inter, mais son tour à vélo, il l'a fait pour un moment, il le fait avec sa femme et son fils de 2 ans et demi. Il est parti pour un tour du monde d'un an. Nous allons tenter de le joindre, il se trouve en Suède.
Allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, mais c'est le satellite qui attend.
Oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour Mathias.
Bonjour Daniel.
Comment allez-vous? Vous êtes où exactement en Suède?
Alors là, on vient d'arriver à Emmaboda. Voilà, une petite ville dans le sud de la Suède.
Oui.
Et on est en route vers l'île de Öland, qui est à l'est de la Suède, et après on remontera sur Stockholm.
Alors, quelle mouche, Mathias, vous a donc piqué de nous abandonner pendant un an pour aller faire ce tour à vélo? Je rappelle, vous êtes parti en juin dernier, et vous avez déjà parcouru 2000 km. Par où êtes-vous passé?
Alors, on est passé par le nord de la France, après on a longé la mer du Nord, donc on a traversé le nord de la Belgique, la Flandre occidentale, donc le long de la mer du Nord. On a continué pour le sud de la Hollande, dans la région des Zélandes, donc le long de la mer du Nord. Et après, on a traversé toute la fin de la Hollande par les terres, puis le nord de l'Allemagne. Après, le sud du Danemark par les petites îles jusqu'à Copenhague. On a traversé sur Malmö et là, donc, on va remonter sur Stockholm. D'abord, on traverse vers l'est et après, on suivra la côte jusqu'à Stockholm.
Et vous comptez aller jusqu'où comme ça exactement?
Alors là, ça nous aura pris 4 mois à peu près, avec une amie qui est en roller, qui fait les 4 mois en roller avec nous. Et à Stockholm, on prendra l'avion pour le Laos, et on passera donc 4 mois entre Laos, Cambodge, Vietnam, on ne sait pas encore exactement par où, mais on va passer 4 mois là-bas en vélo, donc avec mon fils et ma compagne, comme vous avez dit. Mmh. Et on devrait finir, si tout se passe bien, aux États-Unis, on prendra l'avion pour San Francisco, pour suivre la côte ouest, donc la Californie, et après on traversera par le sud des États-Unis.
Oui. Et votre fils, Mathias, il s'appelle Driss, il a 2 ans et demi. Il pédale pas quand même?
Alors il pédale pas encore, ça viendra peut-être, mais là il est en remorque.
Voilà, il est dans une petite charrette derrière vous. Vous faites des étapes de combien de kilomètres par jour?
Alors on ne fait pas des grandes étapes, on fait 40-50 kilomètres à peu près en moyenne. Pour que justement, que Driss passe pas toute la journée enfermé dans la remorque, même s'il l'adore.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, on roule une heure et demie, on s'arrête, on déjeune, on reroule une heure et demie, voilà.
Alors quel but vous vous êtes donné à votre voyage? C'est déjà, j'imagine, de voir du pays, mais est-ce que vous avez un but en plus?
Alors il y a plein de buts, mais on va dire le but principal, c'est surtout de rencontrer beaucoup de personnes et d'aller à la recherche des chansons que chantent les enfants autour du monde. Voilà.
D'accord.
Donc, j'ai un projet sonore en fait.
Une recherche musicale, et on pourra entendre, parce que vous avez créé un très joli site internet, aucoindelaroue.com, vous allez mettre en ligne certains de vos enregistrements.
Voilà, exactement, oui. On va commencer à mettre ça en ligne d'ici 15 jours, donc c'est des enregistrements autour de rencontres de personnes qui nous font découvrir des chansons et sur fond de récits de voyage à vélo, quoi.
Bien. Mathias, en toute honnêteté, est-ce que les studios de France Inter vous manquent un peu?
Oh bah ça arrive, oui. Je vais vous mentir. Non, honnêtement, c'est très agréable de prendre le large, voilà, d'avoir un peu plus d'insouciance. Maintenant, oui, ça me manque. J'ai trouvé le moyen de faire du son en vacances, donc... Je ne vais pas vous mentir.
Vous reviendrez, hein, c'est promis. Dans un an, on vous retrouve.
Alors, normalement, je devrais revenir, oui.
Ouais. Allez, tout France Inter se joint à moi pour vous souhaiter bonne route, Mathias. Et puis, je rappelle qu'on peut donc vous suivre sur votre site internet aucoindelaroue.com, en lien sur la page du Temps d'un Bivouac. Salut Mathias et bonne route.
Salut, merci.
Caroline Riegel, vous aussi, le vélo, c'est un moyen de locomotion que vous avez emprunté quand vous avez fait votre grand périple de 22 mois au travers de toute,
le long du Gange,
de toute l'Asie, le long du Gange. Ouais. C'est un bon moyen d'exploration, le vélo, pour voyager?
Oui. Bah, le long du Gange, c'était vraiment... J'avais une bicyclette indienne, il y avait des millions de gens sur un vélo, donc c'est plus difficile quand on se retrouve sur des grandes routes quand même. Hein.
Oui.
C'est mieux quand on a des petits chemins de traverse.
Oui. Alors, vous avez prévu de revoir bientôt ces nonnes du Zanskar. Maintenant que vous nous avez dit, j'ai plein de projets avec elles, vous devez leur construire une école.
Je crois que c'est trop tard, en fait. Je ne peux plus les quitter.
Oui.
Et c'est réciproque, je me fais gronder si je ne les appelle pas.
Ouais.
Elles s'inquiètent quand je ne le fais pas.
Si je ne les appelle pas, ce qui sous-entend que maintenant, elles ont le téléphone.
Il y a le téléphone depuis 4 ans. Maintenant, je ne saurais plus dire 4 ou 5 ans. Et c'est incroyable, parce qu'en une année, tout d'un coup, tout le monde avait un téléphone portable. C'est assez remarquable.
Vous qui les avez rencontrés il y a 10 ans, vous pouvez aussi mesurer l'évolution de...
Oui, ça bouge. Ouais.
Qu'est-ce qui a changé? À part le fait qu'elles aient aujourd'hui un téléphone portable, qu'est-ce que vous avez pu voir comme changement chez ces nonnes du Zanskar?
Il y avait plus de temps avant. Aujourd'hui, elles sont le Zanskar, pas seulement elles, est en train de rentrer dans la vie moderne, doucement, petit à petit, le vol, les routes. Et les gens sont plus occupés, le rapport au temps change, à l'argent aussi, bien sûr, un certain matérialisme aussi. Mais surtout, on se rend compte que ce n'est pas seulement la religion, une vraie conscience éveillée des choses qui faisait de cette vallée un lieu aussi extraordinaire en termes d'harmonie de vie, d'harmonie de nature et de... Il n'y a pas de prison, il n'y avait jamais de meurtre, il n'y avait rien. C'est une petite vallée qui porte aucun stigmate de guerre, d'invasion, de je ne sais quelle barbarie. Par contre, les choses changent et on voit que, avec ce que ça peut amener de déstabilisation, de difficultés à comprendre, à digérer, de matérialisme, d'envie, de besoin, cette harmonie est quand même parfois... parfois troublé.
Quand sortira le film de ce voyage en Inde que vous avez fait avec ces 11 nonnes bouddhistes?
Je l'espère. Je l'espère, début de l'année prochaine.
Je rappelle les titres en attendant le film, des livres dans lesquels vous racontez votre voyage en Asie, Soif d'Orient et Méandre d'Asie, aux éditions Phébus. Au revoir, Caroline Riegel.
Au revoir, merci.
Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique!
Demain, nous recevrons Olivier Archambault, géographe, explorateur, pour un dernier tour du monde, avec quelques surprises au programme de ce dernier bivouac de l'été. À demain pour de nouvelles aventures.